me suis fait mal au doigt.
Mais tu...
Je sais pas, je me suis...
Tu l'as mis.
Non, je me suis pincé le doigt. Mais bonjour. Bonjour quand même. Hein. Bienvenue ouais. dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. On ne fait pas de... On recommence pas l'enregistrement, c'est tout. C'est comme ça. C'est l'épisode 203, on est le lundi 11 octobre 2021.
C'est bientôt ton anniversaire.
C'est vrai, et je n'ai reçu... Alors, les chers auditeurs, personne ne m'a envoyé de cadeau. Je sais même pas pourquoi on fait un podcast, quoi. Je ne comprends pas. C'est... Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, merci à tous de nous retrouver cette semaine encore. On a plein de jeux vidéo à vous raconter cette semaine, on a plein de news, il s'est passé plein de trucs. Twitch qui a complètement explosé, c'était rigolo. On va y
venir. Moi j'ai mal au dos. Hein.
Mais ça c'est pas de l'actu. Arrête de pousser les chaises pendant qu'on enregistre et les gens.
Pourquoi toi t'as le droit de parler de ton doigt et moi j'ai pas le droit de parler de mon dos?
Tu peux parler de ton dos, je te dis arrête de pousser les chaises.
Mais c'est parce que j'ai mal au dos que je pousse les chaises. Ouais, mais...
Beaucoup d'actu, beaucoup de jeux vidéo. On va vous parler de tout ce qui est sorti cette semaine. C'est pas vrai, on va vous parler que de Far Cry 6 et de Metroid Dread. Mais bon, c'est deux gros morceaux. Merci de votre soutien à tous ceux qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas encore le cas sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez suivre les pages de La Belle Gamer. Tous les liens dans les notes de cet épisode, également pour rejoindre notre serveur Discord, où on a plein de monde, de plus en plus de monde, donc ça fait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi, si vous voulez nous soutenir via Patreon, on a une page Patreon, patreon.com/labellegamer. C'est votre soutien qui nous permet de continuer à faire ce podcast chaque semaine, même quand on a mal aux doigts.
J'ai mal à la tête aussi.
Oh, c'est pas... Ça va être difficile cet épisode.
Hein. Ah non, mais moi je me plais.
On va essayer de ramasser Asa sur le chemin.
Physiquement, hein. C'est pas possible. Hein.
Mais c'est l'âge, ça, ma pauvre.
Mais non, c'est l'âge, le poids, le stress.
Très bien.
La vie, quoi.
Très bien, on peut toujours compter sur Asa pour une dose de bonne humeur dans ce podcast.
C'est l'optimisme perpétuel.
Optimisme perpétuel, ça. Voilà, c'est Far Cry 6.
Oui.
Hein, on va parler jeux vidéo un petit peu, on va parler Far Cry 6. Far Cry 6, le nouveau Ubisoft original, c'est marqué quand ils lancent le jeu en gros. Bon, original, on va repasser. Hein.
Pourquoi ?
C'est pas super. Far Cry 6, hein, c'est le même que Far Cry 5, qui est le même que Far Cry 4, qui est le même que Far Cry 3. Ça s'arrête là, hein, le 2 et le 1 étaient très différents. Mais oui, voilà, pas de gros changements dans la formule, quoique, hein, quelques petits ajustements. Far Cry 6, donc le gros open world de l'automne pour Ubisoft, hein, c'est une année où ils sortent pas de Watch Dogs, c'est une année où ils sortent pas d'Assassin's Creed, ils sortent pas de Ghost Recon, c'est voilà, la grosse sortie de l'automne pour Ubisoft, c'est ce Far Cry 6. On est alors les histoires sont toujours complètement indépendantes. Hein. Cette fois-ci, on est sur l'île de Yara.
Mm.
Hein, bon, pour ceux qui ne savent pas où c'est un faux Cuba en fait. Hein. C'est exactement la même histoire que Cuba, exactement les mêmes trucs avec un bon vieux dictateur comme on l'aime bien. Dictateur joué par
Giancarlo Esposito.
Jean-Charles Esposito. et non, il. Oui, voilà, acteur de... Alors, on va pas dire hollywoodien, parce qu'il fait plutôt de la série, mais bon, on le connaît de Breaking Bad, et de Better Call Saul, on le connaît du Mandalorian, on le connaît, il était dans The Boys, il était dans pas mal de choses, hein, toujours exactement dans le même rôle, c'est-à-dire du méchant impassible, terrifiant, et là, dans Far Cry 6, il joue le rôle du méchant impassible, terrifiant, mais il le fait bien.
Oui.
Il le fait bien, hein. il a toujours une bonne présence à l'écran, ça fait toujours plaisir de le voir. Heureusement, parce que par contre, niveau scénario, niveau texte, Ils lui ont pas donné grand chose à manger, hein, c'est quand même très...
Bah, tu le vois dans l'intro, et puis c'est tout, en fait.
Ouais, tu le vois dans l'intro, tu le vois dans quelques scènes, y a des cinématiques qui parsèment un petit peu la progression du jeu, mais je veux dire, l'histoire...
Ah, à part dire...
Y a pas énormément de profondeur, hein, c'est le dictateur cubain de base.
Oui, voilà. À part dire, il faut m'obéir, il dit pas grand-chose.
Voilà, c'est ça, y a à peu près autant de profondeur que le dictateur dans Tropico.
Ah oui, voilà, ça me fait penser à Tropico.
Mais
vraiment,
complètement. c'est à peu près le même niveau de réflexion sociale.
Ouais, ça me fait vraiment penser à Tropico. Et encore, atteint Tropico...
Ouais, ça va un peu plus loin.
Ça va un peu plus loin derrière, parce que t'es censé faire de la stratégie. Les gens, il faut qu'ils soient bien.
Bon. Non, alors il est là avec son fils, hein, le bébé dictateur, qui veut pas vraiment être là. Hein, c'est l'histoire classique. Son fils se rend compte que son papa, il est un petit peu foufou. Il a pas forcément envie de suivre ses pas, mais il est un petit peu obligé, il est un petit peu forcé. Alors t'as la scène que t'as vue 50 000 fois dans tous les films, dans toutes les séries possibles et imaginables de papa qui essaye de lui apprendre à être impitoyable et ils ont capturé un prisonnier qu'il faut torturer, qu'il faut tuer. Alors du coup il donne le flingue à son fils et son fils vas-y tire mon fils et le fils il hésite, il veut pas. Voilà. La scène tu l'as vue 1000 fois.
Oui, mais hein, c'est la même. Ouais, c'est classique.
Originalité. Alors bon. Voilà, originalité dans l'histoire, bof, il y a originalité dans le genre lui-même, bof, mais finalement, voilà.
C'est ce à quoi on s'attendait.
Quand tu as un jeu qui s'appelle Far Cry 6, tu savais exactement à quoi t'attendre, et il y en a qui sont fans de ça, et moi j'ai été fan de ça, et j'apprécie aussi en dose modérée de temps en temps ce type de jeu. C'est open world, tu vas libérer des camps, tu vas visiter des trucs, tu vas trouver des coffres, tu vas te balader dans une map extraordinairement grande. C'est divisé en zones, les zones sont plus ou moins difficiles, donc ça va être lié à ton niveau de progression, parce que t'as un genre de niveau d'expérience qui va augmenter ta puissance. Donc faut pas aller trop tôt dans les zones trop dures, sauf si t'es courageux et bien équipé. Et voilà, c'est classique. C'est du Far Cry. Tu sens qu'ils veulent pas trop s'éloigner de la formule
non, ça, c'est sûr,
de base, de peur de casser quelque chose, de casser un équilibre fragile. Et là où c'est un petit peu ironique, c'est qu'ils ont quand même fait quelques changements. Et je trouve que dans ces quelques changements, effectivement, ils ont cassé ce qui marchait dans Far Cry.
Ah, en plus, c'est les seuls trucs qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont fait de la merde.
Ils n'ont pas fait des gros changements, mais les changements qu'ils ont fait, j'aime pas du tout.
D'accord.
J'aime pas du tout.
C'est-à-dire ?
Au niveau de la progression de ton personnage. Parce que ce qui va te motiver à fouiller l'île dans tous ses moindres coins, à progresser, à faire des camps, à faire des machins, c'est la progression de ton personnage. T'as envie qu'il soit plus fort, t'as envie qu'il machin, t'as envie d'avoir l'impression que ce que tu fais, ça sert à quelque chose. Petit à petit, tu construis quelque chose, tu construis ton personnage. Ça n'existe plus.
Il n'y a plus
d'arbres de compétences, il n'y a plus de points de compétences.
Ah bon ?
Donc, tous les arbres de compétences qu'il y avait pour améliorer tes trucs, machin. Alors, c'était des compétences classiques de Far Cry, tu vois. Je dirais, bah, t'es un petit peu plus furtif. Et puis, quand tu tues quelqu'un tu vas le looter immédiatement ou des machins comme ça. Tous les points que tu vas répartir dans plein de compétences qu'il y avait dans les précédents Far Cry, ça n'existe plus.
Et donc, t'as juste une jauge d'XP de ton perso ?
T'as une jauge d'XP de ton perso qui augmente quand tu fais les missions principales, même pas les missions secondaires.
Ah bon ?
Ça fait, voilà, j'ai l'impression. Et du coup, ça va faire un gros numéro global qui monte pas bien haut, hein, parce que les grosses zones, elles ont l'air d'être niveau 10, 15 par là. Tu vas pas monter niveau 50, 60 comme c'était le cas.
D'accord.
Toutes les compétences que tu attendrais d'un Far Cry, ton personnage est prééquipé avec. Hein, donc, des trucs comme les loots automatiques, les machins à distance, les glissades, ce genre de trucs. Pouvoir assassiner quelqu'un en lui sautant dessus à la Assassin's Creed, ce genre de choses, ton personnage essaie déjà le faire. Et le seul axe.
C'est simplifié au maximum.
C'est simplifié au maximum. Et ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont rajouté en contrepartie, par contre, c'est un système d'équipement. Tu vas avoir grisé toute la liste des armes, toute la liste des armures que tu vas pouvoir trouver dans des coffres répartis un petit peu partout sur Yara.
Ouais.
Et par exemple, si tu vas avoir 25 mitraillettes différentes, et si tu veux toutes les collectionner, il faut trouver tous les coffres.
Et c'est un intérêt l'équipement ?
Oui et non. J'ai envie de dire non. Chaque mitraillette différente, alors déjà elle a une apparence différente, mais elle va avoir des compétences passives un petit peu, bon c'est léger, mais ça va les différencier un petit peu. Alors celle-là, elle va tirer plus vite, celle-là, elle recharge plus vite, celle-là est plus puissante contre les ennemis en armure, celle-là est plus puissante contre les véhicules, ce machin, tu vois. Donc tu vas pouvoir changer, mais bon, une mitraillette reste une mitraillette. Mmh. Finalement, tu vas avoir les pistolets, les mitraillettes, les fusils d'assaut, les armes lourdes, les pompes, les machins. Et tu vas cocher ce gros tableau, et finalement, si tu veux tout collectionner, bah, tu peux collectionner toutes les armes. Pareil pour l'équipement, on a un équipement qui est un petit peu plus évolué que le Far Cry classique. Tu vas avoir les bottes, les gants, le torse, le casque, le pantalon, tu vas pouvoir tout changer individuellement. Et là aussi, ça c'est t'as le torse qui te rend plus furtif, le pantalon qui te fait résister au feu, la casquette qui augmente tes dégâts contre les animaux.
Et donc les deux trucs en même temps, c'était pas possible.
Les deux trucs en même
temps. Les compétences plus l'équipement, ça faisait trop.
Je sais pas, c'était peut-être trop compliqué, hein, mais voilà. L'équipement. Alors l'équipement est sympa parce que les armures donnent une apparence très différente à ton personnage, ce qui est un peu con parce que c'est un jeu à la première personne, tu le vois jamais.
Ça.
Mais voilà, quand tu es dans le menu, tu vois que ton personnage a une gueule un petit peu différente. Et voilà, je trouve que c'est un pas en arrière. Mmh. Et je trouve que pour un jeu qui va exiger de toi que tu passes énormément de temps dessus et que tu vas explorer énormément toute l'île, je trouve que t'es pas motivé à le faire.
Ouais.
Ça casse un petit peu la motivation. Donc, ça, plus un scénario qui est un petit peu au ras des pâquerettes, une ambiance qui est, voilà, qui est ce qui est. On est à Cuba, c'est Cuba. Alors, ça veut dire que dès que tu prends une voiture, t'as la salsa à fond.
Moi, j'ai du mal à supporter le bruit de ce jeu, en fait.
Ouais.
Vraiment, entre la musique qui ne s'arrête jamais, plus les tirs de... Ça fait vachement de bruit quand tu tires, en fait.
Ouais.
Très bruyant.
C'est très bruyant, ça pète dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. C'est Far Cry, c'est fait pour faire du bruit, pour te défouler. Et il y a une espèce de dissonance entre l'histoire qui essaye d'être sérieuse, qui essaye d'aborder des thèmes importants,
mais c'est quand même pas sérieux,
comme ça, et le gameplay qui lui est pas sérieux. Alors,
c'est pareil quand tu vas. Je veux dire, là, par exemple, t'as un truc où le dictateur réduit pratiquement les gens en esclavage pour aller cultiver je sais pas quoi sur son île. Bon, voilà. Et toi, tu vas donc faire ta mission, c'est-à-dire ravager la plantation de trucs où qui bossent pour le gouvernement, etc. Et quand tu fais ça, donc tu fais n'importe quoi, tu fais tout exploser, machin, et t'as la musique cubaine à fond derrière.
Ouais.
Et ça fait vraiment rigolo, ça fait second degré, tout ça, tout alors que t'es en train de faire un truc super sérieux, quoi.
Et alors, mais ça, c'est quelque chose qui est... Cette dualité entre l'histoire ultra sérieuse et le gameplay qui est rigolo, c'est quelque chose qui est pas forcément quelque chose qui marche pas. Ça marche pas dans Far Cry.
Parce que ça marche très bien dans Judgment.
Dans Judgment, parce que dans 10 minutes, on va parler de Judgment et ils feront exactement la même chose, mais dans Judgment, ça marche.
C'est ça.
Là, ça marche pas parce que le ton est pas maîtrisé, quoi.
Non, c'est ça. Et puis après, ouais, non, ils arrivent pas à le faire correctement, quoi. C'est.
J'arrive pas à m'intéresser à l'histoire principale, donc ça déjà c'est un problème.
Non, moi en fait au début quand tu l'as lancé, je me suis dit ça a l'air Far Cry.
Ça fait le job.
Ça va. Et puis en fait la deuxième fois que tu l'as lancé, je me suis dit oh bon en fait finalement c'est nul. Et la troisième fois je dis non c'est pas possible, je veux plus le voir ce jeu. Mm-hmm. Voilà.
Ça fait le job d'un Far Cry, c'est-à-dire que c'est un défouloir, c'est joli hein.
C'est très joli,
je suis désolé, quand tu es dans la forêt cubaine avec un petit marécage et puis la mer juste derrière et le coucher de soleil, il y a les éclairages, c'est super joli, hein, c'est vraiment beau.
Ouais, mais
ça
une
bouge
fois
bien.
Que t'as vu le jeu et que t'as fait trois missions, tu dis bon bah c'est
ça,
bon.
Exactement.
J'ai fini le jeu quoi, ça va être pareil.
Exactement, une fois que t'as vu le jeu, que t'as fait trois missions, tu as fait tout ce que le jeu avait à offrir. Les missions vont pas être forcément plus compliquées, ça va pas être très différent, ça va être des répétitions, des changements de configuration pour refaire 50 fois la même chose. Les prises de camp qu'on fait depuis 10 ans, les explorations qu'on fait depuis 10 ans, c'est exactement les mêmes outils d'exploration. Tu as le même grappin qui avait été introduit dans Far Cry 4, tu as le même même parachute, tu as tout ça. Tout ça, on te donne dès le début. Et dès le début, tu es dans Far Cry et tu reprends tes habitudes et tes aises sans aucune surprise, sans aucune prise. Bah, comme dit, avec une seule prise de risque qui est pour moi un point négatif de ce jeu. Mais voilà, après, si c'est ça que vous cherchez, il n'y a aucune surprise. C'est ça que vous avez et vous serez très content. Hein. C'est pour ceux qui ont torché Far Cry 5 jusqu'au bout. Et qui
après, ça fonctionne. Le jeu fonctionne correctement quand même.
Le jeu fonctionne bien.
Parce que ce qui c'est pas forcément le cas de tous les jeux Ubisoft.
Voilà, non, le jeu fonctionne bien. On n'est pas tombé sur des bugs majeurs. De temps en temps, dans les dialogues, il manque une phrase parce que voilà, c'est pas. Et de temps en temps, tu essayes. De temps en temps, tu arrives dans un camp et il y a un tank retourné sur le dos. tu sais pas pourquoi. mais c'est l'open world, tu vois. Parfois, t'es tranquille à marcher au bord de la route et t'as un carambolage sur la route et des mecs qui se tirent dessus, un sanglier qui fonce dedans et un cheval qui explose. Mais voilà, ça a toujours été les trucs émergents que tu as dans du Far Cry. On a toujours le problème qu'avait Far Cry de cruauté animale. Hein. Un petit peu aggravé par le fait qu'il y a des chevaux maintenant dans Far Cry. Far Cry 6, il y a pas mal de chevaux. Tu peux monter à cheval, tes ennemis peuvent arriver à cheval. Alors même si, fort heureusement, à aucun moment on t'incite à tuer des chevaux pour progresser, c'est des chevaux qui seront toujours pas très loin des fusillades. Donc, de façon automatique, ça va mal finir pour certains d'entre eux. Et après, t'as les animaux sauvages, les sangliers, les machins, ce genre de choses qu'il va falloir chasser pour avoir de la viande et de la peau et des trucs comme ça que tu vas pouvoir échanger. Alors, cette fois-ci, encore une fois, il n'y a rien à upgrader dans ce jeu-là. mais tu vas échanger contre des compos. Non, mais si, pendant tout le jeu, tu vas ramasser des compos, des morceaux de métal, des trucs comme ça. Mmh. Tu peux customiser tes armes. Une fois que tu as trouvé la mitraillette qui te plaît bien ou le fusil qui te plaît bien, bah, tu vas lui mettre un silencieux, tu vas lui mettre des balles explosives ou des balles empoisonnées ou des machins. Donc il y a quand même un travail de customisation d'armes.
Et pourquoi tu as besoin de dépecer un sanglier pour customiser ta mitraillette ?
Alors, à la base, ça sert à rien, mais la peau de sanglier, tu peux l'échanger contre de la poudre à canon et des trucs comme ça qui vont... Oui, je sais, écoute. Non, c'est pas... Ouais. C'est désespérant.
Mais non, mais après, il y a pire que ça. Je crois qu'il y a des combats de coqs et tout.
Ouais.
Ça va assez loin quand même dans la connerie.
Ouais, voilà. Bon, bah, on a les combats de coqs. Alors, ils sont présentés de façon marrante. Ils sont présentés de façon marrante. Les combats de coqs, c'est un jeu de baston vu de côté. T'as l'impression de jouer à Tekken, sauf que tu contrôles un coq. C'est. Ouais. Tu vois, c'est ouais. C'est à la fois rigolo dans la façon dont c'est présenté et c'est un combat de coq, quoi. Donc,
voilà, c'est ça. C'est ça le problème, en fait.
On esquive de pas loin les combats de chiens et ce genre de choses, mais voilà.
Ouais, et pourquoi des combats de coq et pas des combats de chiens ? Je veux dire, c'est pareil, quoi.
Je crois que c'est la première fois, en tout cas c'est la première fois que je le remarque, on a un avertissement au début du jeu quand tu lances le jeu. Attention, le jeu va aborder des thèmes comme, il y a trafic d'humains, il y a drogue, il y a ce genre de choses. Ils te disent, voilà, cruauté animale, ça sera abordé dans le jeu.
Ouais, mais ça aussi, ça me fait rêver. C'est pas abordé dans le jeu. Ils abordent pas le thème de la cruauté animale. Ils te montrent gratuitement de la cruauté animale de merde pour rigoler dans leur jeu pourri, tu vois. C'est... je veux dire... Je sais pas, ils sont cons. Non, c'est de la merde. Je sais pas. C'est de la merde, vraiment. Plus on en parle, plus je m'en reste. C'est de la merde. Non, mais je sais pas, parce que tu vois, dans Judgment, comme dit, il y a des choses qui sont vraiment au second degré, etc. Et même des trucs relativement graves, quoi. Mais ouais. Putain, mais c'est pitoyable, quoi.
Ouais.
C'est vraiment, ils tombent à côté de... À chaque fois qu'ils veulent parler d'un truc, ils tombent à côté, quoi. C'est pas possible.
Ouais, c'est ça, ils arrivent pas à... Je sais pas, il faudrait changer un petit peu la formule. Mais voilà, après... Le problème, c'est pas forcément que le jeu se répète et soit tout le temps le même et que ça soit encore un nouveau Far Cry. Pourquoi pas ? Il y a la place dans le paysage.
Pourquoi pas, oui.
Il y a la place dans le paysage pour ce genre de jeu. Il y a des gens qui sont clients de ce genre de jeu. Il n'y a aucun problème. Mais ça pourrait en plus d'être la même chose, ça pourrait être tellement mieux, quoi.
Bah bien sûr.
Tellement mieux au niveau de l'écriture, de l'histoire. Il y a des personnages. Il y a certains dialogues qui sont voilà, tu sens les gens, ils ont l'air de dormir quand ils lisent le dialogue.
Mais après, c'est je veux dire, tu peux faire un jeu orienté comme ça et faire un bon jeu. Je veux dire, tu peux faire un truc qui pète dans tous les sens et que ce soit n'importe quoi sans que ce soit débile. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, réveillez-vous, quoi. Il faut...
Ouais, ouais.
Il faut faire des meilleures histoires, c'est quand même pas très compliqué, hein.
C'est pas simple, tu vois. Mais oui,
pas,
ouais, là, il n'y a pas énormément d'efforts qui a été fait, quoi. En tout cas, c'est pas, l'histoire n'est pas prioritaire.
Ben non, alors que c'est dans ce genre de jeu, justement, c'est l'histoire qui doit être prioritaire.
C'est l'histoire qui devrait porter l'histoire et pas être un prétexte. C'est l'histoire qui devrait porter le jeu
et, oui.
Et pas être un prétexte pour faire tout péter.
Mais sinon, ça peut pas marcher, ça peut pas accrocher vraiment, en fait.
Ouais.
Faire tout péter, il faut que tu fasses tout péter, mais pour quelque chose, quoi.
Ouais.
C'est pas juste.
Mais
juste
après,
n'importe quoi.
Après, tu sens que c'est assumé dans une certaine mesure. Tu vois, je veux dire, dans les dialogues, dans ce que racontent les personnages, de temps en temps.
Oui, c'est n'importe quoi, ouais.
C'est n'importe quoi reconnu. Parce que tu vas voir. Alors, le personnage que tu vas jouer. Tu joues le personnage de Danny Roras, qui est soit un homme, soit une femme, au choix, une femme par défaut, qui était au début du jeu en train d'essayer de fuir Yara pour rejoindre les États-Unis, pour rejoindre Miami, parce que le régime part en couille et ça lui plaît pas. Elle se retrouve embarquée dans cette révolution, dans cette petite guérilla contre les révolutionnaires, contre le gouvernement. Et au début, en fait, sur toute l'île de tutoriel où tu apprends le jeu, le truc c'est tu tombes sur ces révolutionnaires et les révolutionnaires, bon bah tu nous aides un peu à faire ça et ça, puis après on te file un bateau, tu iras à Miami, tout va bien. Donc tu les aides à faire les trucs à gauche à droite, et à la fin tu dis bon bah voilà, c'est ce qu'on avait promis, un bateau, tu peux aller à Miami si tu veux, et puis finalement tu décides de rester, évidemment, sinon il n'y aurait pas de jeu. Mmh. Et en gros les dialogues c'est bon bah tu restes, c'est gentil de nous aider, et puis t'as un personnage à un moment qui dit bon. On est entre nous, tu peux le dire, tu restes parce que c'est marrant de tout péter. Et ton personnage dit, ouais, c'est vrai, c'est marrant. Donc tu vois, c'est... Le jeu, c'est ce qu'il fait, quoi. Le jeu, c'est ce qu'il fait, après...
Oui, mais ça le fait pas... Ça pourrait aller encore plus loin là-dedans.
Ouais.
Tu vois. C'est... Je sais pas.
Ouais. Ça pourrait aller plus loin là-dedans.
Ça pourrait aller plus loin. Si tu veux partir là-dedans, tu fais, tu vas carrément dans une ambiance Borderlands un peu plus.
Ouais, ou Just Cause, ou des trucs comme ça.
Voilà.
Des jeux, voilà, où t'es là pour péter, et c'est tout, quoi.
Parce que là, franchement, c'est ça va pas, quoi. C'est, ouais. C'est nul.
Far Cry 6, disponible sur à peu près toutes les consoles, sauf la Switch. Alors nous, on y joue à une version PC. On va faire un mot là-dessus. On n'a pas acheté Far Cry 6 parce qu'on est des bourrins. On ne se l'est pas fait envoyer non plus par Ubisoft parce qu'ils sont des bourrins. On a pris Ubisoft Plus, l'abonnement Ubi machin pour 15 euros par mois, c'est une bande de voleurs, qui te donne accès à tout le catalogue Ubisoft. Mm. Donc du coup, pendant un mois, on va avoir accès à Far Cry 6 dans cette offre-là. Et je pense que c'est une bonne façon de découvrir ce jeu-là sans avoir déboursé 60-70 balles.
Ouais.
80 euros, mais c'est...
Ça coûte 80 euros cette merde.
Attends, PlayStation Store. Far Cry 6e du nom. Bah, je pense que c'est ça, hein.
Oui.
Far Cry édition standard PS4 et PS5, 70 euros. Le prix officiel. Donc ouais, non, mais voilà. Ubisoft Plus, ça marche bien. Alors par contre, j'ai été agréablement surpris de la fluidité du truc. Il n'y a aucun réglage à faire, rien du tout. Je l'ai installé sur mon PC. Tu peux installer tous les jeux que tu veux. Tu peux accéder aux versions Stadia des jeux. Mmh. Tu peux, donc du coup, même sans installer, j'ai pu lancer quelques jeux sur Stadia. La plupart des jeux Ubisoft modernes sont complètement cross-save, sans aucune manipulation à faire. C'est-à-dire que j'ai lancé Assassin's Creed Valhalla sur ce truc-là. Ma sauvegarde de la version Xbox était là, elle m'attendait bien au chaud. Il n'y a eu aucune manip à faire, ça a très bien fonctionné.
Ouais, ça c'est pas mal. Ça peut être une solution pour ceux qui ne veulent pas payer les jeux Ubisoft, hein, de prendre un mois d'abonnement, tester un jeu. Et...
Moi c'est ce que je pense de cette offre. De cette offre Ubisoft, 15 euros, c'est un petit peu cher.
Oui, mais si tu le fais de temps en temps.
Si tu le fais de temps en temps, ça va. C'est vrai que 15 euros, si tu fais la multiplication à l'année, c'est le prix de deux jeux Ubisoft. Hein, finalement. Calculette.
Ouais, mais bon, moi, je pense qu'il faut le faire. Tu te prends un ou deux mois en te disant, ben là, j'ai envie de faire ce jeu-là, ou j'ai envie de faire ces deux jeux-là, et puis. Et puis après, tu résilies. Hein,
ouais, et après, tu résilies. Non, mais voilà, c'est ça. Bah, c'est la conversation qu'on avait hors sujet hein, l'autre jour, mais on en parlait de tous les abonnements de streaming.
Tous les abonnements de streaming et.
En télévision. Hein. On arrive à un truc où tu vas prendre, pendant un mois, tu vas prendre Netflix, tu vas laisser expirer. Le mois suivant, tu vas prendre Amazon pour regarder d'autres trucs, etc. Il faut jongler entre les différents trucs.
C'est ça qu'il faut faire.
Tu peux pas accumuler 5, 10, 15 services à 15 balles chacun. Tu deviens fou, quoi.
Non, et du coup, si tu prends 2 ou 3 mois d'Ubisoft pour jouer au jeu que tu veux, voilà, ça revient beaucoup moins cher que d'acheter un jeu.
Tu rattrapes ton retard. Moi, je sais que j'ai lancé des trucs comme. On en reparlera quand, un autre jour, mais j'ai lancé des trucs comme, que j'avais jamais testé finalement, comme Ghost Recon Breakpoint. Voilà, c'est intéressant de jouer au jeu que tu as raté de cette façon. Non, moi, le seul inconvénient de ce Ubisoft Plus, c'est que c'est une offre exclusivement PC. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant quand l'offre existera aussi sur console. Si ça arrive un jour.
Ouais, c'est voilà. D'accord.
Mais pour l'instant, c'est uniquement sur le client PC. Assez parlé de Far Cry, pas assez parlé d'Ubisoft. Hein, on reviendra chez eux un petit peu plus tard dans l'actu, évidemment.
Ils ont tué des gens, quoi.
Non, ils sont gentils cette semaine. Metroid Dread.
Sont gentils cette semaine.
Oui. Metroid Dread chez Nintendo. Alors, la Switch sort un jeu original, donc ça c'est quand même assez rare pour le signaler.
C'est vrai.
Une nouveauté Switch. Je crois que j'ai rallumé la Switch.
Elle se rappelait plus de toi. Hein.
Ah, il a fallu que je règle la date et tout quand j'ai. Voilà, mais sur Animal Crossing, mais...
Ils sont morts. Alors, t'as eu un message, tous vos habitants sont morts.
Il y en a 2 qui sont morts de vieillesse, les autres ils sont beaucoup plus vieux, ils se rappellent pas de moi, il y en a un qui est sénile, c'est une horreur. Mais bon, j'ai quand même tout mis à jour, j'ai tout patché et j'ai installé Metroid Dread là-dessus. Je suis très content de Metroid Dread. Metroid Dread, c'est clairement le type de jeu que j'attends de la Switch.
Ouais.
La Switch, on va pas se mentir, c'est une console qui avait un retard de puissance quand elle est sortie il y a 4 ans et demi. Donc aujourd'hui en 2021, pour être poli, mon grippin est plus puissant.
C'est vrai.
Et donc si tu veux faire tourner des gros jeux en 3D en machin, alors elle va galérer. Hein, elle a toujours galéré, elle a galéré depuis le début quand Breath of the Wild est sorti et ça va pas mieux aujourd'hui. Donc moi ce que j'attends de la Switch, c'est ça, c'est des projets qui ont l'air de plus faible ampleur, tu vois. On n'a pas encore Metroid Prime 4, hein, on n'a pas de nouvelles de ce truc-là. Le Metroid à la première personne en 3D, ça, on ne sait pas trop si ça va arriver un jour. Si ça va arriver, même pas tout de suite. Mais là, on a un retour à la 2D. Alors, c'est de la fausse 2D, hein, c'est ce qu'on appelle de la 2,5D, même si ça n'a pas trop de sens, c'est des modèles, ils sont modélisés en 3D. Mais la caméra est de côté, bloquée de côté, et tu as une progression latérale comme les Metroid traditionnels, comme Metroid, le premier Metroid sur NES, Super Metroid sur Super Nintendo, c'est ce style de jeu, et ça va s'inscrire dans cette série-là, en fait. Hein. Metroid, ils avaient cette espèce de tradition au début du jeu, quand ils te mettaient le numéro du Metroid. En fait, chronologiquement, tu as eu Metroid 1 sur NES, Metroid 2 sur Game Boy, et ensuite Super Metroid sur Super Nintendo. Mais quand tu lançais le jeu, il y avait marqué Metroid 3. Et si tu prends la chronologie, en fait, si tu prends la chronologie des jeux Metroid, tu as donc Metroid, Metroid 2, Metroid 3 sur Super Nintendo, tu avais Metroid Fusion en 2002 sur Game Boy Advance, ça c'était Metroid 4. Et depuis 2002, il n'y avait plus rien. Hein. On a attendu presque 20 ans pour la suite, mais là on a Metroid Dread, qui est donc Metroid 5. Donc ça c'est l'histoire principale de Metroid. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est des spin-offs. Les Metroid Prime, c'est des spin-offs qui se passent quelque part entre Metroid 1 et Metroid 2. Hein, que ce soit Metroid Prime 1, 2 ou 3. Le 4, on ne sait pas trop encore, mais on n'a pas d'infos. Mais les 3 premiers, c'est comme ça. Et donc là, c'est enfin la suite de l'histoire. Et on retrouve cette vue de côté et cette progression vraiment... Ce genre de jeu qui a donné le nom au genre, hein, le Metroidvania, c'est parce que les Metroid, c'était comme ça. Les Castlevania, un petit peu plus tard, pas les premiers, mais un petit peu plus tard, c'était comme ça aussi. C'est cette vue de côté, c'est cette map à explorer avec des compétences, des armes, des trucs qui vont te permettre d'aller dans des nouveaux recoins au fur et à mesure. Des portes que tu peux pas encore ouvrir, des endroits où tu peux pas encore te glisser parce que t'as pas la compétence qu'il faut. Et voilà. Donc c'est ce truc-là traditionnel. Et moi, c'est ça que j'attends de la Switch. C'est prendre des trucs traditionnels, les améliorer. Moi, ce que j'aimerais bien aussi sur Switch, c'est un nouveau Zelda, mais à l'ancienne, tu vois, vu de dessus, avec des beaux graphismes, hein, des trucs haute résolution, en tout cas.
Bah, ils ont fait Link's Awakening.
Ouais, ouais, le remake. J'aimerais bien un jeu original.
Mais typiquement,
des graphismes comme ça et ce type de Zelda, j'attends davantage ça, je serais beaucoup plus excité s'il y avait ça qui était annoncé plutôt qu'un Breath of the Wild 2.
Ah oui, carrément.
Ah ouais, moi c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Alors, c'est
vrai que c'est plus adapté à la puissance de la console.
Je trouve que c'est plus adapté à la machine. Alors, c'est aussi l'âge qui parle. Hein. Je veux dire, je suis nostalgique de cette époque-là et de ces jeux-là. J'ai grandi avec ces jeux-là. Quand j'avais entre 10 et 15 ans, moi, mes jeux préférés, c'était ça. C'était Super Metroid, c'était un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc, retrouver cette ambiance-là, ce type de jeu, je suis très content. Et j'avais peur que ce Metroid Dread soit un petit peu raté. C'est pas le cas. Alors, on n'est qu'au début. Hein, il est sorti vendredi, donc un peu de calme. Mais c'est, en tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Ça recapture un petit peu cette ambiance-là, avec pas mal d'accent sur l'histoire au début.
Ouais.
Un petit peu plus que forcément les Metroid de l'époque. À l'époque de la NES et de la Super Nintendo, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Hein. Ils te disaient « Ouh là là, les Metroid sont dangereux », et puis tu commençais, voilà. Mais là, il y a un petit peu d'histoire, ça remet dans le contexte, mais c'est cool. Je le trouve rapide, je le trouve dynamique. Ils introduisent dans ce truc-là ce qu'ils ont montré dans les trailers, les robots méchants complètement invincibles, les Emmy.
Emmy, ouais.
Et ça rappelle un petit peu, c'est le méchant omniprésent qui va te courir après, tu peux rien faire, il faut fuir. Un petit peu comme dans les Resident Evil récents, des trucs comme ça, les Nemesis et ce genre de choses. Alors fort heureusement c'est pas dans tout le jeu, hein, c'est juste certaines zones qui sont contrôlées par les ennemis.
Mais c'est vrai que ça rend plus intéressant.
Mais du coup voilà, tu as des phases où il faut que tu échappes au truc, faut courir, faut aller vite. Et c'est là que il y a une super mobilité dans le jeu. Le jeu est très fluide dans ses mouvements, tu peux courir, tu peux sauter, t'accrocher au mur, glisser sous des trucs. Et ça se contrôle assez bien, c'est assez fluide, donc vraiment ces phases de course-poursuite sont assez fun pour ça, parce que tu peux vraiment courir, tu peux vraiment prendre de la vitesse, et ça fait des courses-poursuites assez effrénées, sympas. Et après tu vas te cacher, tu vas sortir de la zone qui est contrôlée par le méchant, et tu vas te retrouver dans des phases d'exploration un petit peu plus traditionnelles de Metroid, avec les ennemis, avec... Voilà, et les contrôles, c'est les mêmes. Les contrôles, ça va être ton canon, que tu peux passer en différents modes de tir au fur et à mesure que tu les débloques. Le gros canon, en fonction des tirs que tu vas avoir, tu vas ouvrir des portes ou pas. Et ce genre de choses. Tu as un contre. Alors ça, c'est un peu...
C'est pas mal, ça.
Il me semble que ça avait été introduit dans Metroid Fusion. Je suis pas sûr à 100%. Mais voilà, t'as une attaque de corps à corps. En fait, quand tu vas te faire attaquer par des ennemis au corps à corps... Tu peux claquer cette touche au bon moment pour faire un contre et du coup pouvoir contre-attaquer avec une attaque chargée ou un truc comme ça. Et les ennemis que tu vas battre comme ça avec un contre vont te dropper beaucoup plus de missiles, beaucoup plus d'énergie pour te régénérer. Donc c'est toujours un bon coup, quoi. Et tu peux aussi contrer... Alors les ennemis, les gros ennemis un petit peu pénibles, quand ils vont te sauter dessus, apparemment tu peux aussi les contrer. Le jeu te dit, attention, il y a un flash lumineux. Si tu appuies sur le bouton au moment de ce flash, tu vas pouvoir le contrer. Mais le jeu lui-même te le dit, la fenêtre de tir est tellement serrée que c'est quasiment impossible.
Effectivement, impossible.
J'ai jamais réussi. Hein, à part dans le tuto, il te dit fais-le maintenant et il te fait une pause à l'endroit où tu dois appuyer sur le bouton. Le reste du temps, non, impossible. Il te dit 99% du temps, c'est mort. Je suis un peu plus que ça. Mais pour me choper 200 fois, je suis pas sûr d'y arriver une seule fois. Mais voilà, on en est au début du jeu, mais c'est exactement ce que j'attendais d'un Metroid. C'est une bonne raison de ressortir la Switch. Il va y avoir une autre raison de ressortir la Switch, mais ça, on en parlera tout à l'heure dans l'actu. Je fais du teasing.
Oui, c'est bien.
T'as vu ça ? Sinon, cette semaine, on a aussi beaucoup avancé sur Lost Judgment.
Oui.
Hein ? Alors, Lost Judgment, c'est comme tous les Yakuza, c'est un jeu qui met du temps à démarrer. Hein, il t'introduit des nouvelles mécaniques pendant longtemps. Hein, je crois que sur la sauvegarde, il y a marqué qu'on est à une douzaine d'heures de jeu.
Déjà ?
Eh oui. On a une douzaine d'heures de jeu, mais on continue à avoir des trucs, et je sais qu'on n'a encore pas tout trouvé. Il y a des trucs qui vont se rajouter encore, mais du coup, ça rend le début intéressant. Il y a des nouveautés un peu tout le temps. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus sur Judgment. Moi, je suis toujours satisfait de l'histoire qui commence à bien bouger.
Bien, hein.
Mais c'est vraiment bien, c'est bien réalisé. Il y a des bons retournements d'histoire, il y a des bons personnages qui sont introduits au fur et à mesure.
Ouais, c'est bien.
Je trouve que le cast de personnages secondaires qui rajoute au fur et à mesure, là, on a discuté avec un flic qui était plutôt cool. Il y a un autre personnage un petit peu mystérieux, celui qui s'est battu avec nous devant le café, là.
Ouais.
Qui a l'air cool aussi. C'est toujours aussi bien. Hein. Après, il n'y a pas de surprise. Hein. Si vous avez déjà joué un Yakuza ou un Judgment, c'est clairement ce type de jeu.
Oui, mais bon, là, pour le coup, t'as un scénario différent à chaque fois.
Ouais, t'as un scénario vraiment différent à chaque fois. Voilà.
On peut pas dire que
là, par contre, ça se renouvelle vraiment. Ouais. Ils arrivent à faire des ajouts de gameplay qui sont cohérents thématiquement avec l'histoire.
Ouais.
Là, t'as une histoire qui tourne à 95% autour d'un lycée qui a des problèmes de harcèlement, et toi, tu fais ton enquête au cœur du lycée. Mais du coup, tout ce qui est secondaire, tout ce qui est histoire secondaire, ça tourne beaucoup autour des clubs du lycée. Ouais. Et tu as tout un élément de gameplay qui est autour de ça. Tu vois, ça va vraiment séparer l'histoire principale, les quêtes secondaires et les intrigues du lycée.
Ouais.
Et là, c'est toute une série de quêtes avec les problèmes de chaque club qui vont s'entremêler. Tu vas aider le club des mystères, hein, que tu intègres rapidement. C'est des enquêteurs un petit peu... c'est des apprentis enquêteurs, c'est des lycéens. Il y a le club de danse, et puis il y a d'autres clubs, et ils ont tous leur drama interne. Et au fur et à mesure que tu les aides, tu as un niveau de confiance, tu as des jauges qui augmentent. T'as vraiment t'as pas eu de possibilité de passer des heures et des heures et des heures à gérer les clubs du lycée. C'est rigolo, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de...
Ah, c'est trop bien, Judgment, hein, je veux dire.
Toi, ça te plaît toujours
autant.
Ça
n'a rien à voir, quoi. Hein, ouais. On
s'est fait copains avec des chats.
Ah oui, il y a des chats.
Là, le gameplay des chats est rigolo. Il y avait déjà des chats dans le premier Judgment, mais là, il y a quelques coins en ville... où il y a des chats qui traînent, alors tu peux leur apporter à manger ou les caresser ou voilà ou jouer avec, comme ça ils sont contents. Mais il faut se souvenir des noms des chats. Alors quand il commence à y en avoir beaucoup, c'est pas évident.
Ouais, là il commence à y en avoir pas mal. Hein.
Hein, je veux dire, à chaque fois que t'as un chat qui arrive, tu fais je te connais pas toi, je vais t'appeler comme ça. Et donc tu as le choix entre trois noms. Et quand tu reviens, déjà si tu veux pouvoir interagir avec ce chat, il faut se rappeler de son nom, sinon il a peur de toi. Donc quand il y a un ou deux chats, ça va. Quand il commence à y en avoir plus.
Mais là, il y en a combien ? On a 7 ou 8 ou quelque chose comme ça ?
Ouais, ouais. Bah, peut-être pas 7 ou 8, mais il y en a pas mal. Et il faut se rappeler, ah oui, alors lui, le gris avec la queue tigrée, comme il a une queue tigrée, on l'avait appelé Tigrou. Et l'autre, il s'appelle machin, Chaussette. Je sais pas pourquoi. Il y en a un qu'on a appelé Chaussette, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va pas s'en rappeler.
C'est la faute de Vince.
Ouais. Mais bon, voilà, les chats, c'est rigolo. Voilà pour les jeux auxquels on a joué. Un dernier jeu dont je voulais parler rapidement, mais ça c'est beaucoup plus loin dans le futur. Un jeu que j'ai vu tourner de mon côté, c'est Oxenfree 2.
Ah oui.
Oxenfree 2, j'ai participé pour IGN à une preview de Oxenfree 2, donc la suite d'Oxenfree par Night School Studio. Le jeu il sort en 2022, hein, donc on n'est pas pressé. Mais ça a l'air vraiment sympa. Mmh. C'était cool de voir ce jeu tourner. Il y a mes impressions par écrit sur IGN France, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'article. Mais si vous avez aimé Oxenfree, le premier Oxenfree, c'est vraiment la suite de ça, et c'est vraiment le retour de cette ambiance-là. On est au même endroit, c'est la même ville, il y a le même problème de signaux radio mystérieux, peut-être potentiellement hantés.
Ouais.
Les mêmes problèmes de failles dimensionnelles qui peuvent te transporter dans une autre époque. Là, c'est des nouveaux personnages, par contre. On est quelques années après. Dans le premier, on tombait sur ces signaux fantômes un petit peu par accident, et on avait réussi à empêcher une faille qui s'ouvre entre les dimensions. Donc ça, c'était plutôt cool. Là, dans le 2, ouais. Tu voulais dire un truc ?
Non.
Ok.
Non, mais je sais pas. À la fin du premier, l'équipe qui est dans le...
Il y a plusieurs fins différentes.
Ah, il y a plusieurs fins différentes.
Il y a plusieurs fins différentes, donc il peut arriver plusieurs trucs avec des...
C'est un peu mystérieux à la fin, mystérieux, on ne sait pas vraiment ce qu'ils deviennent en
ouais,
fait.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ça veut dire qu'on risque de les voir,
de les recroiser
ou pas. En tout cas, ça c'est pas confirmé, puisque là on est sur des nouveaux personnages. Cette fois-ci, on enquête sur ces signaux radio et visiblement sur une espèce de secte, un culte qui essaye de contrôler ces signaux radio.
D'accord.
Okay. Donc l'histoire c'est ça. Mais
Du coup, c'est plus des enfants, alors, les personnages.
C'est des nouveaux personnages. Alors, ouais, c'était des lycéens ou un truc
ouais,
comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est des lycéens qui étaient allés...
Non, là, c'est des personnages qui sont jeunes, mais nettement plus âgés que...
Oui, c'est des lycéens qui étaient allés fumer un joint sur la plage.
Ouais, tout à fait. Mais complètement. Ouais. Non, là, c'est des personnages un petit peu plus âgés, mais pas beaucoup plus. Y a des mécaniques, en plus, qui sont rajoutées. Il y a un talkie-walkie que tu vas avoir tout le temps. Ouais. Tu vas recevoir des appels sur ce talkie-walkie. Alors, des appels, parfois, c'est des gens qui vont te demander des services, des trucs comme ça. Donc ça va créer un système de quêtes secondaires, en fait, d'objectifs secondaires que tu vas pouvoir faire. Soit tu les ignores, soit tu les fais. Si tu les fais, c'est des gens qui vont pouvoir t'aider après, plus tard dans ton aventure. Parfois, tu vas recevoir des appels sur ce talkie-walkie qui sont nettement plus mystérieux. Ça va être des fantômes ou pas.
Oui, des messages qui viennent
d'autres dimensions, d'autres époques, des messages qui viennent du futur, du passé. C'est, voilà, c'est, là encore, il n'y a rien de concret, c'est teasé, mais d'après ce que
ça
j'ai
a
vu...
Ça a l'air sympa.
J'ai vu tourner cette démo, j'ai déjà 50 000 théories dans ma tête. c'est un jeu qui est propice à ça. Et on a toujours cette ambiance, c'est toujours très bien écrit, très bien joué. Les dialogues sont... Les dialogues sont cool. Mmh. Les dialogues sont cool, il y a vraiment un flow naturel dans les conversations qui est agréable. Donc voilà, Oxenfree 2, on aura le temps d'en parler d'ici 2022. Mmh. C'est bientôt 2022, c'est dans 2 mois et demi.
Oui.
Je me suis fait peur en le disant, 2 mois et demi, ouais, c'est juste. Ça va vite, allez, ça va vite, on va passer à l'actu. J'ai perdu mes boutons. Twitch n'a pas eu une très bonne semaine. Hein, ça a été un petit peu compliqué. Twitch s'est fait hacker. Et c'est un hack plutôt significatif, puisqu'il y a tout Twitch en fait qui a fuité sur Internet. Mais tout Twitch. Alors ça circule sur des sites de torrent un petit peu illégaux. C'est un fichier de plus de 100 gigas avec tout Twitch dedans, avec le site, le code source, les machins, tous les outils, tous les trucs internes, tous les outils qu'utilise Twitch. Y a pas mal d'informations sur les abonnés Twitch, sur les streamers, sur des informations personnelles. Y a pas mal d'informations sur les gains des différents streamers. Sur ce genre de choses. Bref, en gros, l'intégralité du site twitch.tv avec toutes les versions et toutes les versions du code source jusqu'au tout début de Twitch, les codes sources des clients Twitch, des versions mobiles, des versions pour ordinateur, des versions pour console, plein d'outils de développement interne propriétaires. Ça inclut tout ce qui est inclus dans Twitch, donc des trucs comme CurseForge, des trucs comme ça, c'est aussi dedans. Il y a plein d'informations sur
mais c'est plus CurseForge, hein.
Oui, mais ça l'a été.
Ouais.
Ça l'a été, donc tout ça, c'est dedans. Des informations sur un projet de concurrent de Steam, développé par Amazon et par Twitch.
Ah.
Concurrent de Steam qui est en nom de code Vapor. Voilà, c'est... Subtil.
Très bon.
Et tous les historiques des paiements vers les créateurs depuis 2019.
Ah, c'est bien, ils vont voir les 10 euros qu'on a gagnés.
Voilà, il y a des listes qui circulent avec des chiffres. Il y a le top 100 qui circule assez. On est 102, donc. On n'est pas dessus, mais vous pouvez chercher quand même. On va en parler de cette liste, elle est intéressante. Alors, c'est une fuite qui est confirmée par Twitch. Hein. Tout ça est tout à fait réel. D'après Twitch, vos mots de passe ne sont pas compromis. Mmh. Mais ils ont reset tous les mots de passe quand même, au cas où.
Au cas où.
Ils ont également reset toutes les clés de streaming. Hein, donc si vous streamez sur Twitch, allez vérifier vos paramètres. Hein, y a tout qui est réinitialisé. Donc faut revoir tout ça. Voilà, non, ce qui fait parler vraiment du truc, c'est les gains des différents streamers, qui est une information qui a été plus ou moins alors confidentielle ou pas. Mais là, en tout cas, c'est des chiffres que la plupart des gens ne réalisaient pas. Il y en a qui, dans tous les sens du terme, hein, il y en a qui pensaient que c'était plus bas, il y en a qui pensaient que c'était plus haut, mais là, on a des vrais chiffres. Des chiffres qui sont a priori réels. Il y a certains streamers qui sont sur cette liste qui ont confirmé, oui, ce chiffre-là, c'est pour moi, en tout cas, il est vrai.
Mais de toute façon, c'était pas... Enfin, on sait combien ils gagnent, les streamers, non?
Alors,
logiquement,
oui et non, près. Parce que... certains streamers, c'est assez clair, parce qu'ils ont en clair sur leur stream le nombre d'abonnés qu'ils ont.
Ouais.
Donc tu prends ce nombre d'abonnés, tu multiplies par le prix d'un abonnement et tu as le chiffre. Hein. Donc,
voilà,
c'est
déjà.
C'est marrant parce que y a certains streamers qui s'insurgent contre cette fuite en disant que c'est un scandale, mais tu avais ton nombre d'abonnés affiché sur ta chaîne. Qu'est-ce que tu pensais qu'il n'y a aucun de tes abonnés qui savait faire une multiplication?
C'est ça.
Je comprends pas. Donc, il y en a pour qui c'était plus confidentiel, il y en a parce que en public, tu vas souvent avoir le nombre de personnes qui te suivent, mais c'est pas forcément le nombre de gens qui te payent un abonnement.
D'accord.
Donc, en fonction du nombre de gens qui te suivent, tu ne sais pas combien la personne gagne. Tu sais que c'est un streamer qui marche bien,
oui.
Mais tu n'as pas un chiffre exact. Hein. Là, on a le top 100 depuis août 2019 jusqu'à octobre 2021. Hein. Et c'est un top 100 qui est plutôt intéressant. Hein. Ça casse pas mal de mythes. On va en parler. Alors déjà, le concept de « il faut être une jolie fille avec des gros seins pour marcher sur Twitch », ça, tu mets à la poubelle tout de suite.
Ah bah non, il faut être un mec qui dans dit
le,
de la merde. Hein.
Dans le top 100, il y a trois filles.
Oui, voilà, c'est que des mecs
sur
Twitch.
Il y a trois filles dans le top 100. Donc déjà, niveau équilibre, il suffit pas de se mettre en maillot,
ouais, mais si
de se mettre dans une piscine en maillot pour faire des abonnés. Ça ne fonctionne pas.
Ben non, même si tu te mets dans... Enfin, je veux dire, les filles, ça fonctionne pas non plus. Enfin, tu vois. Fille, c'est mort, quoi.
Ouais, non, voilà, fille, c'est mort.
Fille, c'est mort, le seul moyen, c'est de se mettre à poil dans une piscine.
Mais même pas. On va venir. on va commencer en haut de la liste. Les deux premiers de la liste, c'est intéressant, les deux premiers de la liste, ça montre bien la dualité Twitch, puisque en premier, tu as Critical Role. Critical Role, c'est une émission sur Twitch. Fait par un groupe de personnes, c'est des gens qui font des jeux de rôle sur papier, qui font des parties de jeux de rôle, des campagnes de jeux de rôle, Donjons et Dragons et d'autres trucs comme ça, et qui se filment et qui streament ça sur Twitch en direct.
Sérieux, c'est ça qui est en premier sur Twitch ?
Critical Role, alors c'est une émission de qualité, les joueurs c'est des gens relativement connus, il y a des gens qui font des doublages de jeux vidéo, des trucs comme ça, il y a Matthew Mercer, ce genre de personnes qui font partie de l'équipe. Mais il y a une grosse production, il y a un gros travail, c'est une énorme machine, Critical Role. Et je trouve que c'est bien qu'ils soient en haut de cette liste, parce qu'ils font ils font vraiment un travail de qualité et ils offrent quelque chose d'original. Et je trouve ça intéressant.
Eux, j'aurais jamais cru que c'était ça qu'ils ont en tête.
Eux, ils sont numéro 1 sur des paiements entre août 2019 et octobre 2021, avec une rentrée d'argent de 9 626 000 dollars.
Sur 2 ans ?
Sur, grosso modo, 2 ans. Un petit peu plus de 2 ans.
Putain. C'est pas mal. Bon, après, attends, eux, ils ont une grosse équipe, visiblement.
Ils ont une grosse équipe, c'est
une
grosse
machine.
Il faut
payer les gens, là.
En numéro 2.
Ouais.
En numéro 2, tu as l'opposé du spectre. Tu as un petit con qui surfe sur une vague de provocateurs et qui multiplie les bans sur Twitch et qui revient à chaque fois et qui, pour le plaisir de ses fans, c'est un mec que tu connais, c'est un streamer d'Overwatch, c'est XQC.
Putain, cette sale race de XQC, c'est lui qui gagne des millions sur Twitch.
Lui, il est numéro 2 avec, sur cette même période, 8 454 000 dollars.
Va crever.
Voilà. Après, là, on parle de 9 millions, de 8 millions... Après, ça descend assez vite. Le numéro 3 est à 5 millions. Quand tu es au numéro 6, tu es déjà à 3 millions. On va essayer de trouver des gens, des noms un petit peu connus, dont on a parlé en tout cas dans le podcast. Numéro 14, tu as Asmongold, qui est un streamer de World of Warcraft. Lui, il est 14 avec 2 500 000. On descend, on arrive au niveau 25. On a des gens comme Shroud, qui font du Fortnite et du PUBG, à 2 millions tout rond. Il faut descendre très très bas, il faut descendre à la 39e position pour avoir la première fille. Pokémon est 39e avec 1,5 million.
Ah bon, mais je pensais que c'était elle qui était en tête de...
Des filles.
Non, mais je pensais que...
Elle a énormément d'abonnés, elle est très mise en avant par Twitch, mais elle est en gain, en tout cas, elle est 39e.
Moi, j'avais l'impression que c'était elle qui gagnait le plus de tous les streamers de tous les temps, quoi.
Cette liste casse pas mal de mythes. Il y a pas mal de gens qui pensaient comme toi.
Et l'autre blanc, là, PewDiePie, il est où, lui ?
PewDiePie, il fait du YouTube, il fait pas du Twitch, attention.
Ah, voilà.
Il est pas là-dessus. Pokémon aussi, c'est une fille qui met pas trop l'accent sur le gain d'argent.
Oui, voilà.
Il y a aussi ça. Elle a fait parler d'elle pour prendre certaines mesures. Par exemple, sur ses dons. Ses dons sont plafonnés. Tu ne peux pas donner des dons trop élevés.
Ah bon ?
Elle a bloqué le truc. Je sais plus à combien elle a fixé le plafond, mais c'est un plafond très bas. Elle ne veut pas de gros dons. Ça l'intéresse pas. Elle a plafonné le truc. C'est la première fille. C'est aussi une des seules. C'est une des seules personnes de couleur, Pokémon.
Oui.
Puisque elle est d'origine. Je crois qu'elle est marocaine.
Non, elle n'est pas genre iranienne ou un truc comme
ça. Je sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà. Mais...
Marocaine, je ne pense pas. Hein.
Je ne sais plus.
Parce qu'elle est américaine, elle.
Après, elle est américaine. Elle est canadienne. Je crois que. Elle a des origines.
Elle est canadienne d'origine.
Elle est canadienne. Elle vit aux États-Unis, bien entendu. Mais bon, c'est compliqué. Après, je suis pas spécialement ce qu'elle fait. En numéro 44, on a un Français. Il faut arriver en 44e position pour trouver le premier Français. C'est Zerator avec 1,4
million.
Ouais. Ninja est numéro 46. Attention, Ninja a passé une grosse partie de cette période sur Mixer et pas sur Twitch. Oui. Donc, c'est un chiffre qui est un petit peu faussé. Si tu veux des seins à l'air, il faut arriver en 48e place avec Amourante, qui elle est connue pour faire.
Voilà, je veux dire quand même, il faut sortir du.
Ouais, mais voilà.
C'est la deuxième, quoi.
Tout à fait. Elle est connue pour vraiment flirter avec la limite des règles de Twitch, d'être le plus à poil possible. C'est elle qui était la première. À faire des streams dans des jacuzzis, des trucs comme ça, en maillot. Voilà, elle met vraiment son physique en avant. Elle joue pas souvent à des jeux vidéo.
Mais elle fait quoi ? Elle parle ?
Elle parle, ouais, non, c'est de la provocation.
Oui, c'est de la camgirl sans se foutre à poil, quoi.
Complètement. Okay. Après, si tu veux en voir plus, tu peux t'abonner à d'autres sites où elle a le droit de faire des trucs un petit peu plus osés.
Ah, voilà, c'est une camgirl, mais littéralement.
Ouais, on se rapproche de ça.
C'est littéralement une cam girl.
On se rapproche
ça,
de ça.
C'est le côté soft où elle attire le chaland pour aller se foutre à poil de l'autre côté.
C'est un peu ça, même si, a priori, d'après ce que j'ai lu, elle ne fait pas de. Quoi qu'il arrive, quel que soit le site, elle ne fait pas de nu. Mais en tout cas, elle est dans le provocateur, le provocateur le plus possible. Tu vas avoir des chaînes Twitch officielles également dans cette liste. La chaîne Twitch officielle de Rocket League est en 61 et a amassé 1,2 million. La chaîne Twitch officielle de Riot, League of Legends, est en 75 à 1 million. Voilà. Voilà, en gros, ces chiffres, c'est à peu près ça. Et tout en bas du top 100, on est déjà descendu à 800 000 dollars. Sur 2 ans, 400 000 par an. C'est, bon,
ça va.
C'est une belle somme. Hein, mais voilà.
Oui, mais finalement, si tu veux
faire
gagner
Twitch,
ton pain sur Twitch, il faut envoyer, quoi.
Voilà, si tu veux être millionnaire... Il n'y en a pas beaucoup qui gagnent de l'argent, qui gagnent leur vie sur Twitch. Et si tu veux être littéralement millionnaire sur Twitch, il faut viser le top 10.
Oui, mais bon, ça, c'est impossible.
Voilà, on est d'accord. Donc... Ça casse un petit peu pas mal de mythes.
Enfin, mais... c'est impossible. Il faut soit te foutre très à poil, soit être très très con, soit...
Alors, il y a, je crois que c'est Zerator. Il y a un Français qui a été assez transparent sur ces chiffres et qui en a rajouté une couche. Il dit bien que, attention, ces chiffres, c'est pas l'intégralité des gains de la personne.
C'est que les abonnements. Oui, donc ça n'a rien à voir.
Alors, dans ses tweets, il expliquait un petit peu les chiffres. Il disait, ça, c'est que les abonnements. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, puisque c'est ce que Twitch te paye, donc c'est aussi ce que tu gagnes avec les bits et ce genre de choses.
Ah bon ?
Ouais.
Bon.
c'est aussi les bits et les trucs comme ça. Ça n'est pas les dons. Les dons, généralement, c'est par une plateforme externe. Ouais. Nous, on a par exemple, quand on faisait du stream, on avait une plateforme de dons qui passait par Streamlabs. C'était complètement indépendant de Twitch. Mm-hmm. Donc les dons, c'est pas comptabilisé là-dedans. Et si tu fais des opérations promotionnelles, des streams sponsorisés, ça, c'est des contrats qui sont effectivement complètement indépendants de... Oui. De Twitch. Mmh. Mais si Ubisoft va te filer un chèque pour streamer du Far Cry 6, c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas dans ces chiffres-là.
On n'a pas reçu le chèque, d'ailleurs.
Non, mais j'ai rappelé. Je comprends pas, il n'est pas...
Ah, je sais pas.
C'est étrange. Voilà, donc... je sais pas si ces chiffres...
Et concrètement, combien donc, sur ces gens qui gagnent très bien leur vie sur Twitch, il y a combien de streamers qui tentent désespérément de gagner 3 euros sur Twitch ?
Par rapport au top 100, combien il y a de gens qui streament ? Il y a des millions de gens qui streament.
Millions de gens qui streament et 100 voilà. connards qui gagnent du fric. Quoi.
Non, mais c'est... Les chiffres, quand tu les convertis en pourcentage, c'est délirant. Nous quand on streamait pour la Belle et Gamer, on avait atteint le plafond, enfin le niveau de Twitch affilié.
Ouais.
Affilié, mais là, on rentre déjà, je crois que Twitch affilié, c'est quelque chose comme le top 4%, un truc comme ça, tu vois. Donc, tu as la grande majorité des gens qui streament sur Twitch qui ont 0 ou 1 un spectateur de moyenne. Mmh. Ça, c'est la très grande majorité. Il y a tellement...
Mais il y a tellement de trucs...
Il y a tellement de trucs, il y a tellement d'offres. Donc vraiment, pour te démarquer de ce milieu-là, c'est assez...
Pour te démarquer, il faut te démarquer, c'est-à-dire que...
Mettre à poil dans un...
Non, mais il y a différentes manières. Il y a l'autre connard qui se fait tout le temps bannir et qui dit de la merde et qui fait n'importe quoi, ça plaît. Il y a l'autre qui se fout à poil. Je veux dire, il faut trouver ton style, mais généralement...
Mais tu as aussi des gens, comme dit...
Généralement, il faut forcer, quoi.
Tu as aussi des gens qui proposent quelque chose de qualité. Donc, je parlais de Critical Role. Il y a aussi la chaîne de Games Done Quick. C'est les gens qui font du speedrunning pour des œuvres de charité, qui sont en 63e place avec 1 185 000. Alors, je pense que ce 1 185 000, ce n'est pas de l'argent qui arrive dans les œuvres de charité. Mais c'est bien que ces gens-là puissent aussi avoir des rentrées d'argent pour le fonctionnement, pour motiver les gens à continuer à le faire. C'est normal.
C'est normal, évidemment.
Il lève des fonds tellement importants chaque année, deux fois par an, pour des œuvres de charité. Mmh. Chaque année, ils pètent les records. C'est déjà énorme ce qu'ils font. Donc, c'est cool de voir. Effectivement, il y a des gens qui font du boulot de qualité et qui sont sur cette liste-là. C'est pas la majorité.
Mais après, on est quand même dans un monde où...
Non, mais après, il y a des bons streamers. Il y a des bons streamers là-dedans.
Non, mais il y a certainement des bons streamers. Mais après, tu as toujours une partie de la population qui va être intéressée par des gens qui sont provocateurs et qui vont idéaliser des gens qui n'ont pas d'intérêt, quoi. Mais c'est comme ça, hein.
Ouais. Voilà, en tout cas, top 100, 3 filles. C'est moyen.
Bon, ben ok, on va se remettre au stream alors.
On va s'y mettre, voilà. C'est...
On n'a pas de jacuzzi, hein, par contre.
Ça peut s'arranger. Nintendo.
Moi, je ne mets pas mon gros cul dans un jacuzzi. Hein. Toi, si tu veux.
Mais... Oui, voilà, c'est ça. J'irai, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va chez Nintendo un petit peu, si tu veux bien. Nintendo. Nintendo a annoncé cette semaine le personnage ultime de l'ultime personnage de l'ultime Smash Bros.
Ah oui, alors
ça y est, ce cauchemar est terminé. Le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate, c'est Sora, le personnage principal de Kingdom Hearts.
Il y a un personnage, c'est pas Mickey, le personnage principal de Kingdom Hearts ?
Sora, donc.
Ah non, c'est le mec avec les grands pieds, là.
Avec les grands pieds et la clé à Keyblade, la clé qui. Il tape les gens avec une clé géante.
Pas honte.
Donc, Sora. Non, bah écoute, c'est un personnage qui était extrêmement réclamé par les fans. Hein. Ça n'a pas dû être facile pour Nintendo d'avoir les droits de ce truc-là, parce que c'est un personnage qui appartient 50% à Square Enix, avec qui ils ont plutôt de bonnes relations, mais aussi à 50% à Disney. Avec qui personne n'a de bonnes relations. Ça devait être complexe. En tout cas, voilà, Sora. Les fans attendaient ça depuis le début. Hein, ils voulaient du Sora. Bon, ils ont du Sora. Voilà. Après, c'est un nouveau personnage de Smash Bros. Hein, on va pas s'étendre dessus. C'est a priori le dernier. On ne sait pas ce que le créateur de Smash Bros. Va faire après. Il a promis qu'il ne ferait plus de Smash Bros. De sa vie.
Il a promis qu'il arrêterait de faire de la merde.
Bah, non, mais Masahiro Sakurai, le pauvre, quand ils avaient fait Super Smash Bros. Pour Wii U, le jeu s'appelait Super Smash Bros. Pour Wii U, c'était nul, il avait dit que c'était son dernier. Et ensuite, ils ont fait Super Smash Bros. Ultimate. Ils l'ont appelé Ultimate. Ils ont mis tous les personnages dedans. Il a dit, cette fois-ci, c'est vraiment mon dernier. Mais ça rapporte tellement d'argent que quelque chose me dit que ça va pas être le dernier.
C'est ça.
Et quelque chose me dit que ils ont pas. Il est toujours enchaîné à son bureau chez Nintendo.
Ah bah attends, pas obligé. Hein.
Je pense qu'il est obligé. pour accompagner Sora, histoire que les gens savent de quoi on parle, tous les Kingdom Hearts sortent sur Nintendo Switch.
C'était pas sur Nintendo Switch ?
Non, c'était pas sur Nintendo Switch. Donc tout le catalogue de Kingdom Hearts. Alors, Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts 3. Donc cette collection des trois jeux sera disponible sur Nintendo Switch. Attention, ce sont des jeux qui seront disponibles uniquement en streaming.
Ah d'accord.
Ce qui est un petit peu scandaleux pour moi, hein. Je veux pas.
Ça tourne pas les Kingdom Hearts là,
bah, Kingdom Hearts 3, alors Kingdom Hearts 3, c'est celui qui est sorti sur PS4 il y a 2 ou 3 ans. Je peux comprendre qu'il soit peut-être un petit peu gourmand, quoique, ouais. Si tu fais des efforts, je pense que tu y arrives.
Et les deux autres.
Mais alors, les vieux jeux qui sont des adaptations des jeux PS2, merde, ouais, ils auraient pu faire un effort. Donc là, c'est vraiment le portage sans effort. Voilà, on fait tourner ça sur des PC et voilà, on fait une version stream. C'est un petit peu scandaleux. Quand ils utilisent cette méthode-là pour porter sur Twitch des trucs comme Assassin's Creed Odyssey, comme Resident Evil 7, sur Switch, ouais, des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, comme Resident Evil 7, comme Control, ok. Kingdom Hearts 1, merde.
Ah non, ils avaient pas envie de se faire chier.
Ils avaient vraiment pas envie de se faire chier.
Non, c'est bon, on s'en fout, quoi. Hein.
Ubisoft. Ah. Ubisoft, dans un élan de créativité rare, a annoncé cette semaine un nouveau jeu.
Ouf.
Ce jeu s'appelle Tom Clancy Ghost Recon Frontline.
Frontline.
Non, c'est pas le truc anti-puce pour les
chars.
Oui,
voilà. Frontline combo.
C'est Frontline dans le sens militaire du terme. Et c'est, figure-toi, un battle royale free to play.
Ah. Quelle originalité. Mais attends, il faut leur dire que c'est plus la mode, les Battle Royale
free to play. Battle Royale free to play. Et c'est. Figure-toi, ça ne sera pas à 80 joueurs, ça ne sera pas à 90 joueurs, ça ne sera pas à 100 joueurs, ça sera 102 joueurs.
102 joueurs.
102. On pète tous les scores. Voilà, donc.
102.
Ghost Recon Frontline, donc un Battle Royale à 102.
Ghost Recon Frontline.
Pourquoi 102 ? Je pense qu'ils ont essayé à 103.
Le principe,
ça
c'est d'arriver à foutre son antipus sur le dos de Poupie, quoi.
C'est ça. Je sais pas quoi te dire, hein, mais c'est.
Mais on leur a dit à Ubisoft plusieurs fois que le Battle Royale, il fallait qu'ils arrêtent. Premièrement, ils savent pas le faire. Ah, deuxièmement, si. C'est plus à la mode.
Comment il s'appelait leur Battle Royale qui.
Le truc de merde, là.
Ouais, ils ont réussi à faire un truc. Je crois qu'ils ont envoyé un. Parce qu'on se plaint. Le vrai effet secondaire du vaccin contre le Covid, c'est qu'il y avait un truc dedans pour te faire oublier le Battle Royale d'Ubisoft. Comment il s'appelait ?
Je sais pas, mais ils l'ont arrêté là.
Non, ils l'avaient refait. Je sais plus s'ils l'ont raté.
Non, ils l'ont arrêté, ils ont dit on va le refaire. Hein.
Ouais, mais ils l'ont pas refait.
Mais non, parce
que. Et maintenant, on se souvenait plus du truc.
Oui, le truc bizarre là, où t'es dans une ville bizarre, t'as des pouvoirs bizarres. Putain.
Attends, est-ce que ça a été effacé de Google aussi ? Ubisoft,
ils ont tout
Battle
fait pour
Royale.
Pas qu'on s'en rappelle. Hein.
Hyperscape. Donc Hyperscape, ça n'a pas marché, mais ils se sont dit, bah, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas Tom Clancy. Donc maintenant. C'est chose faite. La bêta, je crois qu'il y a une bêta en cours, pas forcément en Europe. Donc Voilà, il y a un test technique pour joueurs PC, ah oui, en Europe, et ça commence la semaine prochaine, le 14 octobre, c'est jeudi. Vous pouvez aller vous inscrire si vous voulez tuer 101 personnes à la mitraillette. Pourquoi pas, hein ? Alors, rumeur de la belle gamer, officialisée par Rockstar Games eux-mêmes, Grand Theft Auto, la trilogie, The Definitive Edition, est officiellement annoncée.
D'accord.
Donc, trilogie de Grand Theft Auto, c'est-à-dire la trilogie qui inclut GTA V pour PS3, GTA V pour PS4 et GTA V pour PS5. Non, je dis... La trilogie qui inclut GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas arrive sur PC via le Rockstar Games Launcher.
C'est quoi ça?
C'est leur...
Ça existe?
Ouais, mais je refuse de l'installer, donc c'est mort. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch en 2021, on n'a pas de date encore, et sur iOS et Android en 2022.
D'accord.
On n'a aucune image. Pour ceux qui se demandent si ça va être joli ou pas, je répète, ça sort sur iOS et Android en 2022 et sur Nintendo Switch, sans streaming. Non, après, c'est des vieux jeux. Hein. J'étais à la
Mais donc, c'est pas du tout des remakes ou des remasters ou quoi que ce soit.
The Definitive Edition. Donc non, il y a un travail.
Ça veut dire quoi, Definitive
Alors,
Edition ?
C'est des améliorations qui inclut des améliorations graphiques et des améliorations sur le gameplay, modification de gameplay pour arriver sur des trucs plus modernes, parce que c'est des choses qui ont quand même bien vieilli, hein, c'est des jeux PS2. Donc voilà, donc je sais pas à quoi ça va ressembler, je sais pas à quel point ils vont faire du travail, je sais pas combien ça va coûter.
Alors ça va coûter une blinde, ils vont rien foutre et tous les gens vont l'acheter.
Mais je pense que t'as raison.
Mais oui, je sais.
Je pense que t'as absolument raison. Ça va être, faut pas s'attendre à des trucs très jolis. Hein. C'est des jeux qui sont bien datés maintenant. C'est aussi des jeux qui ont inventé un genre, donc ça peut être intéressant d'y jouer. Hein. S'il y a des gens qui ont jamais joué à ces jeux-là, c'est des excellents jeux. En particulier Vice City, qui avait une ambiance vraiment exceptionnelle dans un faux Miami des années 80. Ouais. T'avais l'impression de jouer. T'avais des scènes qui étaient reprises de Scarface, des trucs comme ça. C'était vraiment, vraiment cool comme ambiance avec la musique parfaite. Ça aussi, la musique, ils n'en parlent pas. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir toutes les musiques,
c'est
toutes les licences qu'ils avaient réussi à signer à l'époque? Les bandes son étaient assez folles, donc ça aussi, c'est pas gagné. Et comme dit, pas de date de sortie alors que c'est prévu pour 2021. C'est bientôt la fin de 2021, donc ça devrait pas tarder quand même. On devrait en entendre parler plutôt bientôt. On enchaîne les mauvaises nouvelles. Toshihiro Nagoshi, créateur de Yakuza, confirme aujourd'hui qu'il quitte Sega.
Merde.
Et ouais, c'est très triste pour les fans de Yakuza et de Judgment. Donc le créateur de la série, Toshihiro Nagoshi, quitte le studio Ryuga Gotoku. Il était chez Sega depuis 30 ans, hein, c'était un vétéran, il avait travaillé avant les Yakuza sur Daytona, sur Virtua Fighter, des trucs comme ça. Son bras droit, producteur et directeur de Yakuza, Daisuke Sato, quitte également le studio.
Sérieux ?
Ouais.
Mais
ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ils partent tous les deux vers de plus vertes plates-bandes, ces verts pâturages s'appellent NetEase en Chine. Donc, bon, j'imagine qu'ils se sont fait acheter. Hein. Mais
ils vont bosser dans un studio chinois ?
Visiblement, ouais, d'après Bloomberg. Alors, Sega et le studio Ryuga Gotoku veulent rassurer les fans. Hein. Le studio est entre de bonnes mains. Le studio est toujours dirigé par des vétérans de la série Yakuza.
Ouais.
La série Yakuza, c'est une équipe, c'est pas juste deux personnes.
Bien sûr, ouais.
Et le studio va continuer à exister. Le studio va continuer à développer des jeux. Ils ont confirmé que dans les mois à venir, on aurait les premières informations sur leur prochain projet, qui est officialisé comme étant une suite de Yakuza Like a Dragon, qui sera la suite des aventures de Ichiban Kasuga.
D'accord.
Donc ça, c'est la première fois qu'on a vraiment une confirmation officielle que c'est ça le prochain jeu et que ça sera Ichiban au centre du truc.
Ouais.
Ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir aux fans.
Ouais.
C'est un jeu qui est qui est actuellement développé par le producteur, M. Sakamoto, et les directeurs, M. Ori, M. Ito et M. Mitake. Ça aussi, c'est des vétérans de Yakuza. Donc, a priori, pas d'inquiétude. Hein, mais c'est un petit peu des chamboulements au sein de ce studio.
Mais est-ce que c'est le mec qu'on voyait tout le temps, celui qui a fait Monkey Ball et...
Ouais, lui, il s'en va.
Putain.
Il s'en va. Ben oui, ça fait un choc pour les fans. Comme dit, ça fait 30 ans qu'il était chez Sega. Donc,
ça fait pas 30 ans, il a 30 ans, le mec.
Il a pas 30 ans.
Non, mais il est jeune. Tu vas pas me dire qu'il a 50 ans, ce gars.
Je vais te dire qu'il a plus que ça.
Mais arrête, il a notre âge.
Oui, on n'a pas 30 ans, ma pauvre Asa.
Non, mais je veux dire... Bon, mais voilà, on n'a pas 30 ans, effectivement. Mais il a 40 ans maximum, ce mec.
Alors, monsieur, encore une fois, je fais du Google en live, Nagoshi... Toshihiro Nagoshi, producteur, né le 17 juin 1965, ce monsieur a 56 ans.
Mais arrête, il a 56 ans lui, il fait plus jeune que nous.
Oui, mais c'est...
C'est japonais.
Ah, il mange mieux que nous à mon âge.
Putain, oui c'est sûr.
C'est un régime de... Un régime de sushi, de saké et de soplande. Ryuga Gotoku n'est pas le seul studio à perdre son dirigeant. Arkane Lyon, que vous connaissez pour Deathloop récemment, le patron de Arkane Lyon, Romuald Capron, quitte le studio après 16 ans de bons et loyaux services. Il a quitté le studio la semaine dernière, juste après le lancement de Deathloop.
Ciao les nazes.
Donc voilà.
On sait où il va ?
Non, on ne sait pas où il va. Il laisse le studio entre de très bonnes mains et ça va être entre les mains de Dinga Bakaba, qui était le game director sur Deathloop. Et voilà, et toute l'équipe qui va avec. Donc, mais on ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va, ça ne s'est pas annoncé.
Bah, il ne nous a pas appelé encore.
Donc. Je sais... Bah, on recrute pas, c'est... c'est pour ça. Non,
C'était plutôt lui qui aurait pu.
Non, mais peut-être qu'après, peut-être qu'il prend sa retraite. Hein. Peut-être qu'il prend sa retraite. Il a fait quelques bons jeux. Le studio a
mais
été...
Mais quel âge il a ?
Je sais pas.
Sa retraite, il a 40 ans, le mec.
Bah, arrête de dire que tout le monde a 40 ans. Tu l'as... Jusqu'à ce qu'on en parle, tu n'avais jamais entendu parler de ce mec. Tu peux pas décréter qu'il a 40 ans. Hein,
c'est... Le mec, il s'appelle Romuald. Il a pas 80 ans.
Alors... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Bah, ça veut dire que les gens qui ont 80 ans, ils s'appellent pas Romuald.
Ils s'appellent...
Bah, il s'appelle
Toshihiro.
Non, mais ils s'appellent autre chose. C'est un nom qui est relativement moderne, donc...
Oui, mais je pense pas que ça soit... Je pense pas que tu puisses faire des extra...
Mais si, à mon avis, il a 50 maximum.
Arkane Lyon n'est pas le seul studio à perdre son... son dirigeant, puisque...
Encore
Randy Pitchford n'est plus président de Gearbox Software. Je t'arrête tout de suite, Asa. Il va pas bien loin.
Oui. Merde.
Donc, Randy Pitchford, cofondateur de Gearbox Software, ce n'est plus président de la boîte. Il est remplacé par l'ancien Chief Technology Officer Steve Jones. Pitchford, quant à lui, reste CEO de Gearbox Entertainment Company, la maison mère, et président des Gearbox Studios, la division qui est chargée du développement des films et séries télé des licences Gearbox. Ouais. Donc pour l'instant, le film Borderlands. Voilà. Donc ça fait pas un gros changement, hein. Il est toujours c'est toujours le grand patron du truc, mais le studio de développement de jeux vidéo a techniquement un nouveau patron.
D'accord.
Voilà. Il y a une troisième branche aussi de Gearbox qui est la branche édition, hein. Ils font aussi éditeur de jeux. Donc voilà, c'est vraiment juste le côté développement de jeux vidéo qui change un petit peu. Voilà, donc ça c'est juste pour mettre à jour vos listes, mais je pense pas que ça implique des gros changements chez Gearbox.
Toujours les petites filles.
Bizarre. Bizarre également à des changements. Non, personne ne s'en va chez Blizzard, mais Ils ont dû se rendre compte à un moment donné que ça fait quelques semaines et quelques mois maintenant qu'il n'y avait plus de game director pour Diablo 4.
Au fait, merde.
Merde.
Non, c'est pas... On avait oublié.
Merde. Joe, tu fais un truc? Non, bah écoute, go. Joe Shelley est le nouveau game director de Diablo 4. Ça suit donc le départ de Louis Barriga. Au milieu des déboires légaux de Blizzard. Hein. Louis Barriga était parti à peu près en même temps que des grands noms du harcèlement, comme Jesse Macri. voilà. Non, donc il était parti en plein milieu de ces trucs-là. Il n'avait pas été remplacé, hein, donc tu sens qu'il était bien parti un petit peu. C'était pas trop prévu.
Précipitamment.
Alors, précipitamment, exactement. Donc voilà. Alors c'est un employé de Blizzard de longue date. Hein. Il a été
crédité. Ah ben c'est sûr, ils n'ont pas pris le mec qui balaye le bureau. Hein.
Oui, mais à mon avis, vu. Également, vu le niveau de... à quel point ils sont scrutés en ce moment et ils sont observés de près, je pense qu'ils ont bien vérifié que M. Joe Shelley...
Oui, il est de longue date, mais pas du groupe Cosby.
Mais il buvait moins. Mais il est de longue date, donc tu vois, il était crédité comme game designer à l'époque de Diablo 3, Reaper of Souls. Il était également dans les crédits de World of Warcraft, des extensions Burning Crusade et Wrath of the Lich King. Et il faisait partie de l'équipe de design de Diablo 4 depuis le tout début. Donc voilà, le développement de Diablo 4 suit son cours. Je ne sais pas si on le verra un jour ce jeu, mais en tout cas, ils font des efforts. On va essayer de partir dans des news, toujours des news business, mais peut-être un petit peu plus positives. Quoique ça, on va dire que c'était, on va le classer en news positive. Nouvelle news positive chez Eidos Montréal. Mmh. Eidos Montréal qui travaille actuellement à terminer Gardien de la Galaxie.
Oui.
Eidos Montréal opère une restructuration de son organisation de travail et passe sur un modèle dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le modèle de semaine de 4 jours de travail.
D'accord.
Donc les équipes qui actuellement ont officiellement une semaine de 40 heures sur 5 jours passent à une semaine de 32 heures sur 4 jours.
Et c'est-à-dire
C'est-à-dire que sans changer les conditions de travail et les salaires des employés, ils ont simplement moins d'heures à travailler. Ils ont des, alors je ne sais pas si c'est des week-ends de 3 jours ou si le troisième jour il est au hasard quelque part dans la semaine, mais ils ne viennent travailler que 4 jours. Ils sont
mais
payés
c'est
autant.
La fête ?
C'est la fête. C'est la fête et c'est quelque chose. Non, mais c'est bien. C'est quelque chose qui va suivre des études récentes qui fait que le repos et la vie sociale et la vie personnelle des employés est important.
Ouais.
Et que et c'est des études qui prouvent que niveau efficacité de ton employé, il est tout aussi efficace, il est plus efficace reposé pendant 32 heures que fatigué pendant 40 heures.
Mais 32 heures quoi ?
4 jours. 4 jours, pas forcément plus
long.
Non
mais je veux dire, déjà tout le monde râle en France parce qu'on travaille que 35 heures et là c'est 32.
32, 4 jours de 8 heures.
Moi... Voilà.
Ah, moi, je veux bien hein, travailler moins.
Non, moi, je m'en fous, mais je veux dire... Enfin, je suis plutôt d'accord qu'il vaut mieux travailler moins et être bien...
C'est quelque chose qui...
Dans de bonnes conditions que... Mais je veux dire, les jeux vidéo, c'est le domaine où tu travailles le plus, quoi.
Alors, voilà.
Comment c'est possible ?
Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça veut dire qu'ils vont faire plus d'heures sup ?
Voilà, je veux dire, le principe, c'est de cruncher, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec 32 heures ? Tu vas pas cruncher, hein.
Mais voilà, mais ça fait partie des studios qui essayent de mettre en place des mesures où on interdit le crunch, où on essaie de préserver les employés.
Ils comptent sortir des jeux ou pas trop ?
Ils sortent les Gardiens de la Galaxie dans 2 semaines. Ils ont l'air plutôt sûrs d'eux. Et ils commencent... En fait, ça fait partie de ces studios qui commencent à réaliser que si tu veux penser au long terme, il faut préserver les employés.
Bien sûr.
On a un problème de main-d'œuvre dans le jeu vidéo. Personne ne veut travailler dans le jeu vidéo. Et ceux qui travaillent dans le jeu vidéo sont épuisés jusqu'à l'os.
Ils arrêtent.
Et ils se cassent ils se cassent pas que de leur boîte, ils se cassent du milieu. Ils vont travailler dans d'autres milieux. Donc, on a un problème de main-d'œuvre qualifiée dans le jeu vidéo. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qu'il faut préserver. Et si c'est une façon de préserver les gens, pourquoi pas ?
Après, bah écoute, d'un point de vue. C'est très bien si eux, ils commencent à mettre ça en place et que ça fonctionne correctement, les autres vont suivre.
Surtout que, voilà. Dans un contexte où il y a un problème de main-d'œuvre dans le jeu vidéo, tous les studios recrutent. Mm. Et donc,
Ah, c'est sûr.
Quand tu habites à Montréal,
tu vas aller chez
et que tu as le choix entre Ubisoft, Warner Montréal et Eidos,
tu vas chez Eidos.
Tu vas peut-être aller dans le studio où tu es payé pareil pour travailler que 4 jours.
C'est ça.
Tu vois, c'est intéressant. Donc, est-ce que ça va forcer la main à d'autres studios de s'aligner ?
Forcément.
Parce que d'un point de vue économique, alors, en adhérant au principe que ces gens-là sont efficaces, voire plus efficaces sur 32 heures qu'ils ne l'étaient sur 40 heures, en restant sur ce principe-là, c'est intéressant. Parce que du coup, ça libère du temps. Tu vas pouvoir peut-être engager plus de gens pour remplir les heures qui restent sur la semaine.
Bien sûr.
Tu vas pouvoir, donc ça peut relancer le recrutement, ça peut faire baisser le chômage. Ça peut avoir plein d'effets positifs du moment que ça fonctionne, tu vois.
Je pense que c'est positif parce que concrètement, on le voit, on travaille mieux quand on est reposé et quand on travaille en moins d'heures d'affilée que quand tu te... Mais qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu travailles pas, de toute façon.
On a un chat qui râle.
Voilà, je veux dire, quand tu te forces et quand tu fais trop, ça va plus au bout d'un moment, quoi. Donc,
ah, tout à fait, tout à fait.
Et le fait de sortir du boulot comme ça, surtout pour des gens dans le jeu vidéo qui ont quand même un aspect créatif dans leur travail qui est assez important, même si c'est pas forcément des gens qui travaillent sur l'aspect créatif du jeu, mais quand même, il faut qu'ils aient des idées, il faut qu'il y ait des trucs qui connectent dans le cerveau. Plus t'y reposer, mieux ça marche.
Tout à fait. Non, je pense que c'est intéressant. Alors, c'est pas les premiers dans l'industrie du jeu vidéo, mais c'est le premier studio de cette ampleur qui le fait. Il y avait eu la news récemment. Alors, récemment, c'était quand ? En septembre. Début septembre, c'était Young Horses. C'est le petit studio indépendant qui est responsable de Bugsnax, qui avait fait exactement la même chose qui était passée sur la semaine
dernière. Bugsnax, quoi, putain. Pardon.
4 jours de travail, 3 jours pour manger des Bugsnax, ça paraît très bien. Non, c'est en tout cas on salue l'initiative. On a fait suffisamment de news ces derniers mois et ces dernières années dans la Belle Gamer sur des conditions de travail difficiles dans le jeu vidéo. Si on a des mesures qui sont prises pour préserver les travailleurs, c'est plutôt cool. Allez, quelques news rapides pour terminer cet épisode, qu'est-ce qu'on a
Arrête de te frotter.
Alors c'est pas annoncé encore par Microsoft, mais a priori il y a une nouvelle carte d'extension de mémoire pour Xbox Series S et Series X qui va sortir. C'est le même principe que la carte d'extension de mémoire de 1 giga qui existe actuellement, mais ça sera une extension de seulement 512 giga contre 1 tera pardon qui existe actuellement. Voilà, c'est plus petit, mais donc forcément moins cher, donc ça peut être une solution intermédiaire pour ceux qui cherchent un petit peu plus de mémoire pour leur console. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai que...
Oui, c'est moins cher comme ça.
Ouais, c'est moins cher, c'est intéressant d'offrir du choix aux utilisateurs. C'est vrai que sur PlayStation, alors c'est un petit peu bancal leur système sur PlayStation, mais ça te laisse au moins le choix de la taille du disque dur que tu vas acheter. Là, tu étais bloqué sur une référence, là ça commence un peu à avoir une offre qui augmente. Amazon fait des choix un petit peu intéressants pour New World, leur nouveau jeu à succès.
Ouais.
Sur les premiers jours de la sortie, il y avait des files d'attente monumentales pour se connecter au serveur de New World.
Ouais.
Et ce qu'Amazon avait dit, c'est bon, on travaille dessus, il va y avoir des transferts de serveurs, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'on vous conseille... vous avez qu'à faire un personnage sur un serveur pas peuplé, vous le montez, et ensuite quand il y aura les serveurs de transfert, vous allez pouvoir rejoindre vos copains sans problème. Et donc ils ont dit, vous pouvez vous mettre sur n'importe quel serveur de n'importe quelle région, et vous pourrez aller, quand je dis n'importe quelle région, c'est Europe, USA, Asie, voilà. Tu te mets là où tu veux, et après tu pourras transférer.
Pas du tout.
Donc le système de transfert est en train d'arriver, et là, on avait dit n'importe quelle région, mais évidemment, on avait menti. Donc ça sera absolument pas possible de transférer d'une région à l'autre. Donc, du coup, il y a des gens qui ont passé des dizaines, voire des centaines d'heures. Oui, en une semaine, c'est un peu trop, mais il y en a qui ont passé des heures et des heures à monter leur personnage sur une région au pif, entre guillemets, là où il n'y avait pas trop de file d'attente. Parce que, typiquement, la technique, c'était de créer ton personnage, si tu es en Europe, de créer ton personnage aux États-Unis ou en Asie, et profiter du décalage horaire pour jouer entre guillemets la nuit.
Ah.
Et forcément, quand tu joues aux heures de pointe
En Europe, il y a moins de monde.
Bah,
c'est
t'as l'impression qu'aux États-Unis, ils ont pas de fil parce que eux, ils sont pas en heure de pointe. Donc voilà. Donc les gens ont fait ça et les gens du coup se retrouvent sur avec des personnages sur des serveurs loin avec un mauvais lag parce que le serveur est loin. Pas avec leurs potes parce qu'ils sont loin et ils peuvent pas faire revenir leur personnage. Donc ils sont pas contents.
Et donc techniquement, c'est pas possible de faire revenir le personnage sur une autre région.
Alors techniquement, tu peux tout faire quand tu t'appelles Amazon. Faut pas déconner.
Qu'il
faut faire des efforts. Mais là, actuellement, ça sera pas possible de le faire. Ils vont mettre en place le système de transfert de personnages et ça sera pas possible de transférer d'une région à l'autre. Donc les gens sont pas contents.
Bah, bravo New World, hein. Je veux dire, il y avait une connerie à pas faire, c'est celle-là, quoi. Non ?
Choix un petit peu bizarre également du côté de Back 4 Blood. Back 4 Blood qui est même pas sorti, qui fait déjà parler de lui. Back 4 Blood, je vous rappelle qu'il sort ce mardi.
Ouais.
Hein, y a des gens qui jouent déjà, mais si tu prends l'édition Super Collector Magic, tu accèdes plus tôt. Et ils ont découvert en lançant le jeu pour la première fois que il y a absolument pas de possibilité de faire progresser ton personnage ou ton jeu si tu joues en solo avec des bots. T'as un gros message d'avertissement qui te dit que gagner des points, gagner de l'expérience, gagner du progrès vers les trophées, vers les trucs comme ça, c'est désactivé quand tu joues en solo avec des bots. Donc les gens sont pas contents.
Bah, c'est un jeu multi en même temps.
C'est un jeu multi, mais qui propose un mode solo, qui propose un mode avec des bots. Ça a été mis en avant pendant le développement du jeu.
Ouais,
si les gens ont envie d'acheter le jeu pour jouer en solo avec des bots, ils ont envie de pouvoir progresser également. Voilà.
Bah oui, sinon tu le fais pas, je comprends pas en fait.
Donc c'est un peu moche, ça gueule. Mais alors cette fois, par contre, réponse un petit peu plus positive de la part du développeur, c'est on a entendu vos critiques. Pour l'instant, pas de promesse, mais on est en train de réfléchir à comment on peut intégrer une forme de progression pour les joueurs solo. Et je pense que la solution qui pourrait être intéressante, et c'est la solution que pas mal de jeux multi choisissent, c'est de faire une progression qui est bridée. Tu gagnes moins d'expérience, un certain pourcentage d'expérience, mais tu gagnes quand même des trucs, et tu as quand même l'impression de pas jouer pour rien. Mmh. Voilà, donc c'est un petit peu intéressant. Choix douteux également pour Square Enix et Crystal Dynamics hein, qui ont mis tout récemment Marvel's Avengers sur le Game Pass. Alors visiblement mettre le jeu sur le Game Pass pour eux c'est comme s'ils étaient free to play parce qu'ils se sont lâchés et ils ont rajouté dans la boutique, ils se sont mis à vendre de l'expérience, du stuff, des matériaux, des ressources contre de l'argent réel.
Ah d'accord.
Ce qu'ils avaient promis de pas faire. Hein, oui, pendant le développement du jeu, ils ont dit non, ça on fera jamais. Et ben le jamais est arrivé puisque voilà. C'est donc si tu vas dans la boutique du jeu, là tu peux acheter donc des boosts d'expérience, des points d'expérience contre des euros, tout simplement.
Très bien.
Ce qui ouvre quand même la porte à pas mal de moqueries. Hein, ils avaient fait quand le jeu est sorti. On montait de niveau assez rapidement et finalement ils avaient baissé le nombre de points d'expérience que tu pouvais gagner. Mmh. Ils avaient ralenti la progression parce qu'ils disaient voilà, les gens gagnent des niveaux trop vite et du coup ils peuvent plus rien comprendre. Et du coup on limite le truc parce que sinon c'est embêtant. Donc maintenant la bonne nouvelle c'est que si tu veux plus rien comprendre, tu peux le faire pour 12,90€. Voilà, non, c'est moche, hein, surtout que bon, ils n'ont pas beaucoup de joueurs mais ils en ont quelques-uns et se les mettre sur le dos comme ça, c'est pas forcément très malin. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard que ça sorte juste au moment où le jeu arrive sur le Game Pass et qu'il y a littéralement des centaines de milliers de joueurs bien qui sûr, débarquent hein. Quoi. Voilà pour l'actu cette semaine Aza. Je te propose de passer un petit agenda des sorties tranquillement. Agenda des sorties de la semaine, un petit peu léger. Hein, c'est bien, parce qu'on avait besoin de se reposer un peu. Tout ce qui est notable se passe demain 12 octobre. Donc Back 4 Blood, on en a parlé. Hein, c'est sur PC, PS5, Series X, PS4, Xbox One. Donc mardi 12 octobre. Également 12 octobre sur Xbox Series X, Xbox One et sur Nintendo Switch. Le Final Cut de Disco Elysium. Cette version console rallongée qui sort donc cette fois-ci sur Switch et sur Xbox One. La version console existait que sur PlayStation jusqu'à présent. Et maintenant, donc, on a une nouvelle version du jeu pour ceux qui veulent s'y mettre.
Ouais.
Voilà pour les sorties. J'ai quand même noté dans l'agenda vendredi 15 octobre. Je ne sais plus si c'est à 15h ou à 16h, en milieu d'après-midi. Un Nintendo Direct spécial Animal Crossing. Voilà, ils avaient annoncé que les nouveautés seraient dévoilées au mois d'octobre, donc on y est en plein. 15 octobre, ça durera 20 minutes. Et c'est beaucoup 20 minutes pour un seul jeu, pour Animal Crossing, donc ça me donne espoir.
Ah bon, moi ça me donne espoir qu'on va avoir beaucoup de blabla.
Tu crois que pendant...
Bien sûr. Ils vont pas annoncer des trucs pendant 20 minutes. Hein.
C'est, voilà. Ils vont demander leur avis à chaque résident de l'île.
C'est ça.
Voilà, chaque villageois. Alors, quel est ton avis sur le truc? D'accord. Non, mais voilà, Animal Crossing, j'avais envie de nouveauté, donc c'est cool. Moi, je sais que je serai devant le stream vendredi après-midi. C'est pas vrai, je serai en train de travailler, mais je serai devant le stream le soir en rentrant chez moi.
Bon, arrête.
Ouais, je vais peut-être me mettre sur le YouTube sur le téléphone et l'avoir gardé au feu rouge.
Mais 32h, de toute façon, hein.
Ouais, voilà, c'est ça, vendredi. Je travaille plus vendredi maintenant.
Voilà.
Merci.
Tu dis à ton patron, c'est bon, on m'a dit que.
C'est bon, c'est DOS qui a dit appeler Montréal. Voilà pour l'agenda des sorties. Asa, est-ce que tu veux faire deux mots de Asa TV? Ou pas, hein, c'est pas. Après, on peut.
Je me rappelle plus ce que j'ai vu.
Bon. Bah écoute, on préparera ça mieux pour la semaine prochaine alors.
Ouais.
On a vu. Alors. Ultra rapide, on a vu Suicide Squad avec Asa. On a vu The Suicide Squad, c'est le titre du film, hein, c'est le nouveau qui est sorti cette année. Et c'était rigolo. Voilà, merci.
Ouais, non, c'était bien mieux que le premier, c'était vraiment pas mal. Ça se prend pas au sérieux, c'était cool.
Voilà, c'est le déjà reboot de James Gunn, réalisateur que vous connaissez pour Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Et c'était fun. Ça se prend pas au sérieux, c'est vraiment le niveau de sérieux que Suicide Squad devrait avoir et que le premier aurait dû avoir.
C'est ça.
J'arrive pas trop à comprendre si c'est une suite, un reboot ou un truc comme ça, mais il y a quelques acteurs qui reviennent. Hein,
les seuls qui étaient bien, ils les ont récupérés, les autres, ils
voilà. Les mais ont virés. On rajoute quand même des noms sympas, on rajoute Idris Elba, on rajoute John Cena, on rajoute ce genre de choses. Et ça fait une bonne équipe, ça fait un film léger qui est rigolo, qui est fun, et qui se prend pas au sérieux, c'est marrant à voir. Donc voilà, ça s'appelle The Suicide Squad, à ne pas confondre avec Suicide Squad tout court d'il y a quelques années. Mm. Et c'est vraiment cool. L'univers cinématique de DC, il y a vraiment des hauts et des bas. Ils ont du mal à trouver un petit peu leur base, mais celui-là était cool. Donc voilà, c'est recommandé. Mm. Voilà, en tout cas, merci Asa, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cet épisode. On vous souhaite une excellente semaine. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Salut.